Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la loi des séries. Comme chaque semaine, vous le savez, 26 minutes de face à face avec celles et ceux qui font les séries. Et cette semaine, on s'intéresse à une série culte américaine qui fait son grand retour cet été sur Netflix à partir du 9 juillet. La nouvelle version de La Petite Maison dans la Prairie sera diffusée. Voici la première bande-annonce.
Maman, papa, Marie et Laura quittaient leur maison au cœur du Wisconsin et arrivèrent dans la prairie. Où une nouvelle vie les attendait. Chaque jour et chaque nuit était une aventure. Et même si ne pouvaient compter que sur eux. Eux si petits comparés au ciel et aux étoiles. Ils étaient heureux. Parce qu'ils formaient une famille. Et qu'ils étaient ensemble.
Et voilà, La Petite Maison dans la Prairie, ça revient donc cet été, ce sera le 9 juillet sur Netflix. Et pour en parler, je le disais, quelqu'un qui connaît bien le sujet, ça fait quelques années qu'il a entrepris une vraie campagne de réhabilitation de La Petite Maison dans la Prairie. Bonsoir Benoît Lagane.
Bonsoir Alexandre.
Ça va bien?
Ouais, ça va bien, très heureux d'être là.
Bah moi aussi, journaliste pour notamment spécialiste des séries pour Télématin, où tu officies tous les week-ends avec des recommandations séries aux invités comme au public. Et je disais, avec les spectacles que tu joues aussi sur scène, tu as entrepris de réhabiliter La Petite Maison dans la Prairie. Avant toute chose et avant d'en reparler, que t'inspirent ces premières images de La Petite Maison dans la Prairie, évidemment indépendamment du côté que vont avoir certains fans peut-être un peu hardcore en disant ouais, c'est pas la bonne taille de la bâche, c'est pas la bonne couleur de la prairie, enfin voilà.
Bon, avec les fans hardcore, on a toujours de toute façon...
On n'est jamais déçu.
Oui, et puis dès qu'on a un reboot, ça va jamais. Dès qu'on fait même un épisode de réunion, ça va jamais. Enfin, parce que, en fait, dans les séries, on se construit tellement avec cet univers au fil du temps, pendant des années, ils nous accompagnent, que forcément, que la proposition qu'on va nous en faire ne va pas ressembler à celle que nous, on a en tête et on a pu se faire, nous tous. Moi, quand j'ai été plutôt content. De voir cette bande-annonce. D'abord parce que ça reprend le principe de l'histoire racontée par Laura. Donc ça, c'est la base du roman et puis de Laura Ingalls et puis de la série. Que alors c'est assez rigolo parce que on a déjà des gens qui disent oui, on est content parce que on voit Charles qui joue du violon. Oui, mais Charles il joue du violon dans les romans aussi. Donc en fait, c'est normal tout ça. non, ce qui m'a le plus
c'est plus verdoyant.
C'est plus verdoyant. Après, il y a deux petites maisons dans la prairie. Il y a La Petite Maison dans la Prairie du pilote et il y a La Petite Maison dans la Prairie en série formule qu'on connaît très bien, à Walnut Grove, etc. Donc tout ce que l'on voit pas dans cette série, dans cette bande-annonce, c'est ce que ça va réellement être vraiment dans cette première saison. Est-ce que...
Avec des saisons qui en plus vont être plus serrées.
Voilà, 8 épisodes a priori pour la première saison, on sait déjà qu'il y aura une saison 2, mais que vont-ils faire? Est-ce qu'ils vont être, comme le dit dans la bande-annonce, très proches des livres? Donc dans ce cas-là, les fans de la série d'origine risquent d'être déçus, puisque Michael Landon et toute la bande prenaient des libertés quand même avec les romans. Mais ce qu'on ressent dans cette petite minute de bande-annonce, c'est qu'ils ont fait le bon boulot entre ce qu'est le livre, ce que représente le livre dans la culture américaine, et ce qu'a représenté la série de Michael Landon. Donc, je suis plutôt enthousiaste.
Ouais, les personnages sont plutôt ressemblants dans ce qu'on semble voir là sur les photos, dans la bande-annonce. Voilà, il y a tout. Mais pour l'instant, il n'y a pas le thème.
Voilà.
Le thème musical n'y est pas, mais on a les personnages qui sont là et charge effectivement un nouvel acteur d'incarner Michael Landon, Charles Ingalls.
Alors pour tout dire, quand j'ai regardé la bande-annonce, il y avait ma femme qui regardait par-dessus mon épaule et dit « Oh, il est cute, Charles !»
Ah, il est cute, Charles.
Et c'est vrai que Michael Landon était déjà cute, donc je pense...
C'est un autre type de physique.
Voilà. Et Caroline, enfin, ils sont tous assez parfait dans le par rapport au choix du comédien. Je trouve que là, ce qu'on voit, ça fonctionne très très bien.
Et ça ressemble pas mal à beaucoup de séries qu'on voit aujourd'hui qui sont un peu sur le modèle de retour aux sources, avec des grands espaces, comme avec The Madison, avec de Taylor Sheridan par exemple.
C'est ce que j'attends moi vraiment de, c'est ce que j'espère en fait de cette saison. C'est pas qu'ils nous refassent un copier-coller de la série des années 70 et 80, puisque
on peut la voir largement.
On peut la voir et on peut la revoir, et elle mérite d'être vue et revue. Mais c'est que elle soit dans son ADN la même chose, c'est-à-dire une série qui, comme le fait très bien Taylor Sheridan d'ailleurs dans ses séries, et qui se plonge dans l'Amérique du 19e pour nous raconter l'Amérique contemporaine. Et je pense, et il y avait ça dans La Petite Maison dans la Prairie de Michael Landon, donc c'était le 19e qui racontait les années 70. Et donc ce que j'espère, c'est qu'ils n'auront pas oublié ça dans cette adaptation. Au vu du pédigré de la showrunneuse, je crois que ça devrait le faire.
Alors retournons dans le passé, retournons dans cette petite prairie, grande prairie, où nous avons suivi ces personnages pendant 9 ans. Retournons s'inquiéter pour cette petite fille qui court dans la colline et qui va se casser la gueule inlassablement au fil des épisodes. Mais le générique est devenu culte, alors on résiste pas à la tentation de vous le faire redécouvrir. Il faut le rappeler, hein, Michael Landon, c'est une grande star de la télévision américaine qui a, entre la fin des années 50 et la fin des années 80, début des années 90, enchaîné 3 séries à succès. D'abord Bonanza, voilà, que j'ai là, avec le beau livre sur la saga Bonanza aux États-Unis. Ensuite, c'était La Petite Maison dans la Prairie. Et pour celles et ceux qui aiment ce grand homme, il y a cette biographie qui était sortie en auto-édition, qui est disponible un petit peu sur Amazon, que vous pouvez aller voir et qui est hyper intéressante. Et ensuite, il y a eu Les Routes du Paradis, qui est disponible en ce moment sur TF1+. Trois séries, ils ne sont pas si nombreux que ça à les avoir enchaînées. La Petite Maison dans la Prairie, elle arrive au milieu. Ce qui va être compliqué, c'est qu'il va falloir là, en une petite quinzaine de minutes, essayer d'être concentrique sur ce principe-là. Moi, je t'ai vu sur scène parler de La Petite Maison dans la Prairie, avec cette volonté de réhabiliter le message qui était derrière. Pourquoi ? Parce que l'Ouest américain, la conquête comme ça, avec des gens qui vont s'installer, ça renvoie à une image qui est celle de l'Amérique traditionnelle, alors que toi, tu la vois comme une série plus progressiste qu'elle n'est.
Oui, en fait, c'est plusieurs choses. C'est d'abord La Petite Maison dans la Prairie. Enfin, l'image que l'on a de l'Ouest, c'est le western cinématographique. Les John Ford, etc. Et les séries western qu'on connaît aussi. Tu citais Bonanza, La Grande Vallée.
Gunsmoke,
même si on l'a moins connu dans Police des Plaines en France, mais c'est quand même passé, mais on l'a moins connu. Mais Au Nom de la Loi avec Steve McQueen. Enfin, bon, Les Mystères de l'Ouest. On a une image de l'Ouest, avec le cow-boy, le héros, et qui va être détrôné finalement par le flic ensuite. Donc il y a cette image-là. Et quand La Petite Maison de la Prairie arrive, c'est une autre vision en fait qu'on nous montre de l'Ouest, c'est-à-dire qu'on est dans la chronique familiale.
Le western est en bout de course, hein, la télévision, quand La Petite Maison de la Prairie arrive. Hein, Bonanza est à s'est arrêté. Gunsmoke aussi. Enfin voilà.
Oui, Gunsmoke s'arrête un an après le début de la petite maison dans la prairie. On est vraiment dans une bascule aux États-Unis. Ils appellent ça la. On peut. Des universitaires l'ont appelé comme ça la purge rurale, quoi. C'est-à-dire que on ne veut plus de création qui se passe à la campagne et en particulier dans les des westerns parce qu'on considère que les annonceurs préfèrent des héros urbains parce que c'est plus fort pour pouvoir vendre leur spot de pub finalement et c'est pour ça que
c'est la bascule de la quality TV. Alors voilà,
on a
70-80.
Ouais, et on a des sitcoms qui étaient dans le monde rural qui disparaissent, on a les westerns en fin de course qui disparaissent et tout ça est remplacé par des sitcoms qui se passent en ville ou dans les petites banlieues pavillonnaires, les flics qui remplacent les shérifs, etc., etc. Et la petite maison dans la prairie s'en sort bien parce qu'elle fait, elle prend le parti pris de la saga familiale, de la chronique familiale. Pour ceux qui ont les séries des dernières années en tête, il faut se dire que quand on regarde la petite maison dans la prairie, en 1970, les gens regardent le Viciseuse de l'époque. Une série drama, avec une famille qui va être confrontée à des malheurs, mais qui dit « demain, ça ira bien » et on est soudés, on est une famille, on est là. La bande-annonce de la nouvelle version redit ça. On est une famille, on est ensemble, on est bien ensemble. Ça ne veut pas dire que tout va être, contrairement à ce qu'on a pu dire, mignon, gentil, tout va bien, oh là là, ils sont gentils et vive la Bible, comme la parodie qu'on en fait en permanence. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que la famille, c'est ce qui soude
c'est
et qui fait
ciment,
que
ouais.
C'est le ciment. Et en un sens, elle est extrêmement réaliste, pas forcément dans la façon dont on représente l'Ouest, mais elle est réaliste dans ce qu'on veut raconter de ces familles de pionniers. Et c'est ce que montre très bien Taylor Sheridan aussi avec 1883. C'est qu'une famille unie, c'est le seul moyen de tenir dans un Ouest sauvage et dur. Et le parti pris de la petite maison de la prairie, et c'est pour ça que moi j'ai eu envie de la réhabiliter, c'est de dire attention, détrompez-vous, vous ne regardez pas la parodie des nuls. Quand vous regardez La Petite Maison dans la Prairie, c'est drôle et j'adore la parodie des nuls. Mais c'est pas ça que vous regardez. Vous regardez une série qui est en train de parler semaine après semaine à des Américains dans les années 70, dans une période où la télévision s'intéresse moins au monde rural du fait des annonceurs, mais où il y a une Amérique, et notamment une Amérique des villes, qui recherche une nouvelle vie à la campagne, avec un mouvement des néo-ruraux, avec les communautés hippies, avec tout ça. L'Amérique des années 70, c'est ça. Et donc, on ne peut comprendre le Walnut Grove de Michael Landon qu'en se disant qu'on est à mi-chemin entre la représentation conservatrice
traditionnelle
que tout un public américain a envie de voir, et une vision progressiste d'une Amérique de la communauté, de l'entraide, de on n'est pas là pour se forcer au travail juste pour enrichir le CAC 40, mais pour s'enrichir nous humainement et entre nous, communauté humaine. C'est tout ça en fait qu'il y a dans la petite maison dans la prairie.
Et qui les soude les uns les autres jusqu'au bout, puisque on se souvient que quand ils décident de
raser le village,
ils le font tous ensemble.
Oui, et
ils sont soudés jusqu'au bout, quoi.
Et avec cette idée de Michael Landon de dire on met fin à notre œuvre, personne ne réutilisera notre décor. Il n'est pas question que le business se fasse du fric encore plus sur notre dos alors qu'il nous arrête. Donc on casse tout et on pète tout.
Ça n'a pas empêché quand même qu'il y ait des tours opérateurs qui existent pour
oui.
cultiver l'ambiance.
Ah bien sûr, mais
c'est pas les décors originaux.
Mais c'est pas, on refait pas derrière une autre série en utilisant les décors qui avaient été construits pour La Petite Maison de la Prairie. Voilà.
Ça a duré 9 ans, effectivement, comme tu le rappelais, jusqu'au tournant des années 80, milieu des années 80. C'est intéressant parce qu'il y a deux types de séries qui cohabitent à cette époque-là. Il y a La Petite Maison de la Prairie qui paraît quand même appartenir à cette télé traditionnelle, et puis il y a la nouvelle télévision, entre guillemets, le Hill Street Blues, le Saint Elsewhere et tous ces programmes-là. Et c'est vrai que La Petite Maison de la Prairie figure d'OVNI au milieu de tout ça.
Oui et non, parce que si on prend Hill Street Blues, c'est NBC. Si on prend La Petite Maison de la Prairie, c'est NBC. Et si on regarde les deux œuvres regardent la société américaine, mais à leur endroit, pour leur public, Ah, dans un créneau horaire très spécifique. Et ce que raconte Hill Street Blues dans le genre de la série policière avec ce commissariat et donc cette série chorale, cette première série chorale au sein d'un commissariat, c'est que dans chaque cas qu'ils auront à traiter, on porte un regard sur ce qu'est la société contemporaine. Dans La Petite Maison de la Prairie, on est dans le décalage. On est dans, puisque l'Ouest le permet, dans la mythologie américaine, dans la mythologie de ce qu'on rêvait de l'Amérique avec ses pionniers qui espèrent trouver le paradis sur Terre, qui veulent créer ce petit paradis sur Terre dans des petites communautés, et à la fois parler de la société qui évolue dans les années 70, et donc on va parler du viol, et donc on va parler du suicide, et donc on va parler du business, du fast-food qui peut débarquer et qui peut venir casser la tradition d'un bon plat fabriqué sainement par des gens qui savent cuisiner. Voilà. Et donc il y a tous les sujets au fond qui traversent la société américaine vont être abordés dans La Petite Maison de la Prairie, mais de façon différente des autres séries. Donc pour moi, c'est dans tous les cas, Quality Television ou pas Quality Television, ça participe d'une façon de traiter des histoires qui tendent un miroir sur le monde.
Alors que des multiples rediffusions en France sur toutes les chaînes de télévision, le groupe M6 en a fait pendant très longtemps sa série du midi. Aujourd'hui, c'est rediffusé aussi sur les plateformes. Ça paraissait être la série à laquelle personne n'oserait s'attaquer un jour en termes de reboot. Finalement, Netflix s'en empare. C'est quoi la bonne, entre guillemets, petite maison dans la prairie ? Est-ce que c'est la série de Michael London, c'est-à-dire le regard de cet homme de télévision sur la télévision, ou est-ce que c'est la série de Laura Ingalls, c'est-à-dire le regard féminin sur cet aspect-là? Grosso modo, est-ce qu'on pourrait faire La Petite Maison dans la Prairie telle qu'on l'a connue aujourd'hui, avec cette perspective de remplacer le regard féminin sur les événements que l'on traverse?
Je pense que on pourrait traiter les mêmes thèmes, on le regarderait
différemment,
autrement, on le mettrait en scène peut-être autrement. Mais oui, il y a un homme derrière La Petite Maison dans la Prairie qui est Michael London, avec tous ses travers d'homme qui a une vie chaotique, donc il y a ses traumas, et qui, quand on produit une série aussi intense que La Petite Maison dans la Prairie, ne devait pas être tendre tout le temps sur les tournages. Alors oui, il y a tout ça, mais c'est quand même, quand on la regarde avec le recul, c'est une série qui mettait à l'honneur les femmes. Et le point de vue féminin. La narratrice, ça reste Laura dans la série de Michael London. Donc aujourd'hui, à partir du moment où on met une showrunneuse sur la série, on est, on va dire, plus en adéquation avec et l'époque actuelle, mais aussi avec le roman initial. Donc c'est une bonne idée d'avoir mis une showrunneuse sur cette réadaptation de La Petite Maison de la Prairie. Parce que une femme, contrairement à Michael London,
elle va apporter une autre sensibilité.
Elle va apporter une sensibilité que Michael London, il apportait une sensibilité, mais il parlait pas du point de vue féminin. Mais la série, franchement, elle met à l'honneur que des femmes. Et on peut dire que les hommes, mis à part Michael, le personnage de Charles qui est très présent, les hommes sont en arrière-plan dans La Petite Maison de la Prairie version Michael London. Donc, au fond, c'est pas... on pourrait pas faire exactement pareil, mais on peut être dans le même état d'esprit.
Famille, voilà. Il y a deux hommes et cinq femmes sur cette photo qui
symbolise. Et revoyez des épisodes de La Petite Maison de la Prairie pour voir à quel point, Charles est gentil et bon, et il est à l'écoute, etc. Mais il est être à l'écoute de sa femme et la laisser libre de faire tout ce qu'elle fait, puisqu'à un moment donné, Caroline va travailler quand même. C'est typiquement pas réaliste au 19e.
C'est progressiste par rapport à l'époque qu'il fait.
Mais on le fait dans les années 70, parce qu'on est dans le mouvement des mouvements féministes des années 70 et qu'on sait très bien que Charles, enfin Michael Landon, ne peut pas ne leur donner cette place-là. Et par ailleurs, on sait que Karen Grassel va se battre pour demander une égalité salariale, qui joue Caroline, sur le bateau, parce que c'était l'époque qui voulait ça et que c'était anormal. Et Michael Landon ne va pas être terrible en tant que showrunner à cet endroit-là. Mais elle va avoir quand même gain de cause. Et il va finir par écrire quand même un épisode où les femmes se révoltent du fait de la demande de Karen Grassel en termes de production d'égalité salariale.
C'est intéressant parce que c'est des choses effectivement dont on entend beaucoup parler justement aujourd'hui au niveau des comédiennes et des comédiens, et on se dit que voilà, il y a eu une petite jurisprudence à l'époque qui a pas fait long feu, hein, parce que derrière, ouais, ça a été compliqué pour toutes les comédiennes d'avoir gain de cause. Dans la bande annonce de la version 2026, il y a un personnage qui n'est pas là pour l'instant, mais qui a symbolisé la petite maison dans la prairie. Pour terminer cette émission, je ne résiste pas à ce petit extrait qu'on va redécouvrir.
Tiens, des paysannes.
Un peu de silence, les enfants, un peu de silence.
Et voilà, la suite, évidemment, vous pourrez la découvrir et la redécouvrir. C'est vrai que c'est l'imagerie de l'Ouest américain tel qu'on le connaît. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller me balader une fois dans l'Ouest américain, dans une petite ville fantôme qui s'appelait Calico. Tous les artifices qu'on retrouve, la petite école, les costumes, tout ça, ça fait partie de cet imaginaire-là.
Mais le vrai Walnut Grove ne ressemble pas du tout à ça. C'était dans un endroit très... C'était justement des grandes plaines. Et c'était pas aussi vallonné que ça. Est-ce que Nelly va être dans cette nouvelle...
On l'attend de voir.
S'il respecte les livres, elle est forcément là, mais elle n'est pas aussi centrale que dans la série de Michael Landon. Donc tout dépendra de ce qu'ils font réellement. Et la force de Netflix, c'est de proposer leur saison en intégralité d'un coup. Donc au moins, ça va permettre de voir l'ensemble des épisodes de la saison 1 pour voir si, et même si elle n'arrive qu'à la fin, et ça promet une saison 2 qui pourrait être la saison 2 à Walnut Grove.
À ton avis, dernière question subsidiaire, est-ce qu'on peut faire La Petite Maison dans la Prairie sans le thème mythique qu'on a entendu tout à l'heure? C'est compliqué, parce que c'est un des marqueurs quand même très très fort.
Ouais, je dirais oui. Je dirais oui et non. Faut que ce soit présent d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et il y a deux, en plus, il y a deux thèmes. Il y a le thème du début et le thème de la fin. Donc, pour moi, il faut que la musique s'en inspire, qu'elle l'évoque. Mais c'est vrai que dans tous les reboots de séries qui n'ont pas vraiment joué avec le générique, et ça m'a toujours, moi, à titre personnel, un petit peu déçu. Parce que c'est la seule chose qu'on peut attendre.
C'est notre petit...
Voilà, c'est la seule chose qu'on peut attendre en tant que fan et qui ne vient pas gêner la réécriture de l'œuvre derrière. Et typiquement, je trouve que le reboot de Magnum n'est pas le plus réussi de l'histoire,
mais ils
ont réussi à bien s'en sortir. Et le générique est le bon exemple et la preuve que était une promesse sur ce qu'ils allaient refaire. Ok, la même chose, mais en plus resserré et en plus rapide.
Tu chantes sur scène La Petite Maison dans la Prairie ou pas?
Non, parce que ça se chante pas.
Ah, tu pourrais le fredonner quand même.
Ça se chante pas, mais dans le premier spectacle, le compteur cathodique, je terminais en faisant l'oiseau, comme Laura à la fin de La Petite Maison dans la Prairie.
Donc tu peux pas, non, tu le fais pas sur scène.
Non, ça je le fais pas.
Tu chantes
je, parce que je l'ai fait dans le compteur cathodique. Donc, dans le compteur cathodique, je racontais quand même l'histoire de ma famille comme si mon père s'appelait Charles Ingalls et ma mère Caroline. Donc, à un moment donné, je pense que j'avais donné.
Oui, la psychanalyse, c'est suffisant.
Maison, il fallait raconter autre chose.
C'est plutôt la perspective des génériques, effectivement, et des musiques oui. qu'on retrouvera dans ce nouveau spectacle qui est en rodage. On est en train de trouver des salles dans toute la France pour oui. te permettre de le découvrir. Tu l'as présenté notamment à Cerimania, en amont de Cerimania, au mois de, début du mois de mars, je crois.
Oui, c'est ça.
Ça s'appelle
Précédemment, et en sous-titre, Previously Off, bon. Pour ceux qui sont bilingues.
Pour ceux qui veulent savoir de quoi ça parle, c'est assez évident quand on l'entend. Voilà, je remercie évidemment Benoît d'être
Merci,
venu pour nous parler de La Petite Maison à Paris. C'est compliqué de résumer en 26 minutes comme ça une série aussi dense, mais je crois qu'on a essayé de le faire. Je rappelle qu'il y a ce petit ouvrage consacré à Michael London qui est disponible, qui retrace un petit peu ses 30 ans de carrière. Et puis, si vous aimez Bonanza ou que vous connaissez mal, bah, il y a cet ouvrage qui est fait avec des photos, avec plein de choses sur la série à l'intérieur. La Petite Maison à la Prairie, ce sera donc le 9 juillet sur Netflix. Ce sera votre grande saga de l'été sur Netflix. Il y aura une saison 2, ça a déjà été annoncé. On ne se sépare pas d'une machine aussi huilée rapidement. On retrouve Benoît Lagan le week-end dans Télématin. Samedi, dimanche, vendredi, samedi.
Vendredi
dimanche.
Et samedi.
Bon, voilà, vers 9h15.
C'est ça.
En fin d'émission pour avoir ces petits conseils séries.
Voilà.
Exactement. Merci Benoît d'être là. Merci à Nicolas qui a été à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Loi des séries. On devrait parler d'une série France Télévisions. Ça s'appelle Enchaîné la semaine prochaine. La très bonne nouvelle mini-série de France Télé. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un nouveau numéro de La Loi des séries.